Vous écoutez
RMC.
RMC.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
C'est la façon dont on a joué ce match-là. J'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Je voulais souhaiter la bienvenue à Bruno Benvindo.
Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Thibaut Giangrande.
Et oui, bienvenue dans l'After, tout le monde. On est en direct jusqu'à minuit, comme tous les soirs. Et 24 heures sur 24 en podcast. L'équipe ce soir, toujours composée de Kevin Diaz et de Lionel Charbonnier qui nous rejoint. Salut Yo.
Salut Thibaut, salut Kevin, salut à tous.
Tout va bien Yo, tu t'es pas endormi devant ce match, non? Ça va?
Non, j'ai trouvé, écoute, une première mi-temps intéressante. Et puis il y a des choses à dire, il y a des choses. J'ai noté 2-3 petits trucs.
Le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-1 ce soir face à l'OGC Nice. On va débriefer ensemble ce match supporter parisien, supporter niçois. On vous attend le 32-16, appelez-nous et venez débattre avec l'After. Tiens, les autres résultats du soir à l'étranger, à commencer par le Benfica qui joue en ce moment, c'est pas terminé, je vous donnerai le résultat final, mais 0-0 pour l'instant sur la pelouse de Guimarães, 66 minutes de jeu. Le Benfica, prochain adversaire du Paris Saint-Germain, ce sera mercredi soir en Ligue des Champions. Ça vient de se terminer en Italie, victoire de l'AC Milan sur la pelouse d'Empoli, 3-1 finalement. Assez dingue, parce qu'il y avait 1-0 pour l'AC Milan à la 91e. Et ça se finit à 3-1. Bajrami a égalisé pour Empoli. Balo Touré et Rafael Leao ont ensuite marqué 2 buts pour donner la victoire à l'AC Milan. Et puis ça finit aussi en Espagne. Le Barça s'est imposé à Majorque 1-0. But de Robert Lewandowski, bien sûr. On va donc revenir sur ces matchs tout à l'heure. On va aussi revenir sur la victoire de Rennes à Strasbourg cet après-midi, 3-1. Les Rennais continuent leur remontée, les Strasbourgeois continuent de creuser, toujours aucune victoire cette saison. Est-ce qu'on est en train de retrouver le stade Rennais de la saison dernière? Et puis pour Strasbourg, est-ce qu'on s'inquiète ou toujours pas? Parce qu'on nous dit depuis le début, faut pas s'inquiéter. 32-16.
Là, ça commence à être critique quand même.
Et puis vers 23h45, coup de fil à nos drôles de dames. Vous l'avez entendu, il y avait des gros matchs ce soir. Il y en a eu dans l'après-midi aussi, un peu partout en Europe. Julien Laurence, Paulo Breitner, Johan Crochet et Fred Hermel nous diront ce qu'il faut retenir ce soir sur tous ces sujets. Comme tous les soirs, on vous attend les gars, le 32-16. Adrien est là au standard, venez débattre avec l'After. D'ailleurs, si vous voulez débattre d'autres choses, n'hésitez pas, hein, vous appelez, vous venez à l'antenne, pousser un coup de gueule, commenter l'actu foot. Vous êtes les bienvenus également sur le Direct Studio, la messagerie sur les applis RMC, RMC Sport, la petite radio à droite, vous cliquez, vous nous envoyez vos messages en direct ou sur Twitter. Le hashtag RMC Live, 22h54. On commence cette émission par le plus important.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Les 3 points de Kevin et de Lionel. Pour commencer, Lionel qui vient d'entrer en jeu.
Eh ben écoute, mon premier point, c'est le PSG, bien évidemment, qui fait le taf. J'ai trouvé un PSG très intelligent en première mi-temps, mais attention, ce PSG qui maîtrise à chaque fois me fait peur et fait peur à tous ses supporters, parce que dans la maîtrise, il y a cette espèce de suffisance qui les remet dans le doute à chaque fois, et ils s'en sortent avec les individualités. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, je vous ai entendu un petit peu parler du management de Galtier, je suis pas trop d'accord avec vous. Donc on peut en reparler tout à l'heure, parce que je trouve qu'il a été pris au piège et qu'il a pas pu faire tourner comme il voulait. Et troisième point, les Niçois, c'est dommage, c'est franchement dommage, mais ces Niçois, cette composition me plaît. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu ce soir chez les Niçois.
Kevin, tes 3 points ce soir.
Bah en un, c'est le PSG qui a été bon par intermittence et qui finalement s'en sort plutôt bien dans un match où ils se sont créés trop peu d'occasions. En deux, c'est les Niçois qui font un bon match, vraiment, mais je les ai trouvés cohérents. Je les attendais pas à ce niveau, je pensais qu'ils allaient se faire rouler dessus par le Paris Saint-Germain, pour être honnête, mais ils ont été plutôt bons. Et en trois, c'est quand même le match de l'après-midi avec Rennes qui s'impose et surtout Strasbourg qui est de plus en plus inquiétant.
22h56, l'after. N'hésitez pas à venir débriefer ce Paris Saint-Germain-Nice. On vous attend au 32-16. Est-ce que votre premier point, les gars, faut le voir, est-ce que vous rejoignez ou pas finalement? Parce que Lio, tu dis un PSG intelligent mais qui se fait peur. Et toi, Kevin, tu dis un PSG intermittent.
Ouais, j'ai trouvé, ouais.
Et du coup, est-ce que intelligent, intermittent, finalement, vous vous rejoignez quelque part ou déjà là-dessus, vous êtes pas
je suis d'accord avec Kevin. Non, j'ai trouvé une première période très intelligente, c'est-à-dire que le PSG a su maîtriser, regarder son adversaire, ils ont su le jauger son adversaire, l'attirer avec des ballons derrière. Attention, les Niçois jouaient vraiment bien, ils avaient tissé une toile qui était difficile à traverser. Je les ai trouvés très intelligents parce que pendant ce rang d'observation, ils ont fait tourner la balle, ils ont fatigué les Niçois, et le travail a fini par payer parce qu'après, avec les coups de butoir de Messi, que j'ai trouvé très bon, franchement très bon, première mi-temps, il a été prépondérant pour cette équipe, il a des fulgurances, il marque en plus son coup franc, tant mieux pour lui, tant mieux pour le PSG, mais voilà, dans un moment où il à mon goût, alors là, on pourrait revenir aussi sur le jeu d'Ekitike. J'ai pas trouvé transcendant. Je l'attendais plus dans la profondeur. Donc, comme il n'y avait pas la profondeur, le PSG a été obligé de jouer dans la largeur. Alors, est-ce qu'ils ont joué dans la largeur parce qu'ils n'avaient pas la profondeur, ou est-ce qu'Ekitike prenait pas la profondeur parce qu'ils jouaient trop dans la largeur? C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais en tout cas, les Niçois ont couru, se sont fatigués, les lignes se sont étirées. Et là, à partir de là, c'est pour ça que je dis que c'est très intelligent, parce que dans ce rang d'observation, ils ont quand même fatigué l'adversaire et ils ont créé des brèches et ils ont su en profiter. La faute sur Messi qui amène le coup franc. Voilà, on est l'illustration.
Kevin, tu réponds dans un instant, je vous prends à l'antenne aussi au 32-16, mais d'abord il y avait du rugby ce soir, c'est terminé, 5e journée de Top 14, La Rochelle Racing, Romain Asselin.
Avec une victoire quasi inespérée pour La Rochelle à la mi-temps de ce match, victoire 24-19, La Rochelle était menée 16 à 7 à la mi-temps par le Racing, qui avait fait tout bien pendant 40 minutes. Et on a eu le scénario inverse en deuxième mi-temps, avec notamment deux essais rochelais, dont le premier sous les couleurs maritimes de l'ancien francilien Teddy Thomas. Victoire 24-19. La Rochelle reprend provisoirement les commandes du Top 14 avant le match demain, le match au sommet entre Montpellier et Toulouse, à suivre évidemment sur RMC.
Merci beaucoup Romain, passez une bonne soirée. On attend aussi à tout moment les premières réactions de Christophe Galtier, Lucien Favre. On sera en direct du Parc des Princes. Juste avant le 32-16, Kevin, ta réponse à Lionel.
Bah écoute, non, moi j'ai pas trouvé que le PSG a si tant maîtrisé que ça. Au contraire, j'ai trouvé que les Niçois les ont vraiment embêtés. J'ai cru revoir, et coach Courbis me le disait pendant le match, c'est vrai que j'ai cru revoir le PSG Monaco, où les Monégasques avaient vraiment embêté avec un système assez intéressant, où ils ont été chercher haut les Parisiens. Et les Niçois ont fait un peu pareil dès le début du match, dès les premières minutes, ils ont été chercher haut les Parisiens. Les Parisiens à qui il manquait bien sûr la profondeur. Et là, je suis d'accord avec Lionel et Kitike, qui normalement est un joueur de profondeur, mais c'est pas Kylian Mbappé, donc il n'a pas réussi à étirer le bloc comme arrive à faire l'international français. Et ensuite, les Niçois se sont bien recroquevillés. Il y a eu un bon Messi, c'est vrai, aussi par intermittence. Alors toujours avec le ballon, mais derrière, je trouve que le PSG s'est quand même procuré très très peu d'occasions jusqu'à l'entrée de Kylian Mbappé. Il y a une frappe de Messi. Sinon, j'ai pas vraiment de souvenir d'énormes occasions pour les Parisiens dans ce match.
J'ai pas dit qu'il s'était procuré des occasions.
Non, je sais bien. Je dis juste mon analyse, tu vois, globale. Mais après, par contre, avec l'entrée de Kylian Mbappé, ça a débloqué le match sur un bon pressing de Mukiele. Mais honnêtement, tu vois, Lionel, s'il y avait eu un partout, j'aurais pas trouvé ça immérité pour les Niçois.
Ah ben oui, non, mais je suis d'accord avec ça, parce que j'ai trouvé Nice très bon aussi. Par contre, moi je les ai trouvés en maîtrise. Pourquoi je dis maîtrise? Parce que aussi, j'ai pas vu un arrêt de Donnarumma.
Ah oui.
Ils ont vraiment, pour moi, ils maîtrisaient leur sujet. Et à chaque fois, comme très souvent, enfin comme tout le temps, comme toutes les années, quand le PSG maîtrise son sujet, qu'il gagne 3-0, je vais pas revenir sur les remontadas, les machins, les trucs, tout ce qui s'est passé, ou quand ils maîtrisent un match, ils se font peur parce que on se relâche, on est un petit peu trop passif dans les duels, on va plus chercher, on n'est plus dans l'impact, on se dit on maîtrise, on veut plus se faire mal comme quand il y a cette petite peur qui fait que voilà, ils sont à 0-0, ils savent pas trop, le 1-0 leur suffit et ils se disent oh bah avec ça ça. De toute façon, on a vraiment la maîtrise du jeu. On a le truc. On les fait courir. On fait ce qu'on veut. Il va rien nous arriver ce soir. Et bing, à chaque fois ils prennent. Alors c'est sur un but, c'est sur un but d'avance, mais ça peut être aussi sur trois buts d'avance. Et ça, c'est quelque chose que le PSG doit corriger. Il maîtrise. Pour moi, il y a eu de la maîtrise, mais par contre, trop de passivité, trop de et ils arrivent à ne plus savoir maîtriser leur maîtrise. Ouais, c'est ça le problème.
Alors les gars,
je suis d'accord avec ce que vient de dire Lionel. Et tu vois, je regarde. Alors certains n'aiment pas les stats, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça peut donner une petite tendance comme ça. Tu vois, le PSG a eu, on va dire dans ce match, hein, ce qui est quand même assez peu pour cette équipe, huit occasions, alors plus ou moins dangereuses. Mais Schmeichel n'a fait que deux arrêts dans le match.
Non, il a rien eu à faire, Schmeichel.
Ouais, tu vois. Donc
l'arrêt sur Messi.
Alors que moi, je te dis franchement, je pensais que le PSG allait rouler sur Nice, hein, que ça allait être très très difficile pour les Niçois.
Ouais, mais Nice, moi je suis d'accord avec toi. Moi j'étais pareil. Mais Nice a fait une très belle copie. Ouais, Favre a peut-être trouvé une solution. C'est à creuser le fait de redescendre Rosario derrière d'un cran.
Ouais, c'était pas mal.
J'ai trouvé ça très très bien. Atal, enfin, j'ai trouvé cette équipe très équilibrée. Alors après, bien sûr, c'est la première fois qu'ils le font. Il va falloir, s'ils jouent comme ça, il va falloir qu'ils se projettent beaucoup plus vers l'avant. Bon, ils joueront pas contre le PSG tous les week-ends, mais c'est quelque chose. Moi, c'est un dispositif qui m'a beaucoup plu et qui a fortement gêné le PSG, mais qui pourra gêner pas mal d'autres équipes et qui pourra aider Nice à progresser.
Les gars, on accueille tout de suite Bilal dans l'after, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Bilal.
Salut les gars, salut tout le monde.
Tu sors du stade, c'est ça Bilal?
Ouais, à l'instant.
Je suis curieux d'avoir ton avis.
Ah bon moi je suis très impatient de vous le donner en tout cas.
Bah vas-y, on est impatient de t'entendre.
Déjà, je suis supporter du PSG, donc ce soir il y a une victoire, donc dans le fond je reste quand même content. En revanche, je vais quand même être assez critique. Et si vous me le permettez, je vais vous faire une analyse en trois points.
Bah avec plaisir.
Sur les trois lignes.
Vas-y Bilal.
Mon premier point, c'est la ligne de défense. Honnêtement, on est loin, très très loin d'être assuré ce soir. Et même Marquinhos, qui d'habitude est vraiment assurance touriste de cette défense, je l'ai senti hyper fébrile ce soir. On a plus le Marquinhos des grandes heures de la belle époque. Ça fait flipper. Mon deuxième point,
je suis d'accord, c'est pas qu'aujourd'hui, hein. C'est pas que ce soir.
Ah, non,
je suis d'accord
c'est
avec
pas
toi.
Aujourd'hui, on est bien d'accord.
Ouais, c'est vrai.
Mon deuxième point, c'est le milieu de terrain. N'en déplaise à Daniel, quand Verratti est pas là, c'est pas le même milieu de terrain, les gars. Je suis vraiment désolé.
Bah, bien sûr.
Ce soir, il manque Verratti, il manque son toucher, il manque sa technique, il manque ses passes, il manque tout. Il manque tout de Verratti. Alors, je vais pas dire qu'ils ont pris l'eau, ils ont pas pris l'eau, le milieu de terrain, mais voilà, il manque quelque chose, quoi. Mon troisième point.
Après, Bilal.
Vas-y,
Bilal, après pour Verratti et par exemple bon qui a été remplacé par Ruiz, il faut laisser un petit peu plus de temps. Il y en a un qui est plus installé que l'autre. Ruiz, il a pas fait un mauvais match. Verratti, c'est vrai que quand il récupère les ballons, il sait déjà où regarder, tout ça. Ruiz est toujours en train de s'adapter. Il faut lui laisser un petit peu de temps. Je veux pas condamner ce milieu de terrain tout de suite. Mais t'as raison sur Verratti, il est très important. Je suis d'accord.
Et en plus ce soir, Daniel n'est pas là, donc t'as vraiment raison facilement.
Il est bien sûr très important, Marco Verratti. Mais je pense pas non plus que Daniel ne pense qu'en Ligue 1, Marco Verratti n'est pas important pour le PSG. Si je dois rappeler le discours de Daniel, c'est surtout dans les gros matchs, notamment en Ligue des Champions ou dans les matchs où le PSG est en grande difficulté.
Bilal, ton troisième point.
Petite aparté, j'ai absolument rien contre Daniel. Je suis très souvent d'accord avec lui. Hormis sur le cas Marco Verratti. Voilà, je ne dirai pas plus à ce sujet-là. Dernier point, c'est l'attaque.
Ouais.
Et ce soir, j'ai été déçu, mais d'une force, vous ne pouvez pas imaginer, du petit Ekitike.
Bilal, je vais te laisser développer, mais
Kevin te répond. Vas-y, Bilal.
Vas-y.
Certes, il n'a pas ses marques dans l'équipe. Ok. Il n'est pas habitué à jouer là, dans cette équipe. Il n'est pas habitué à tout ce que vous voulez. Mais les gars, quand on joue au PSG, qu'on a 20 ans, qu'on joue au parc un samedi soir à 21h, la moindre des choses, c'est de faire des efforts, c'est de courir, c'est de faire des appels, c'est de se donner, c'est de tout donner sous le terrain. Je suis désolé, je ne l'ai pas vu faire d'appel, pas de contre-appel. Il marche sur le terrain, les gars.
Il a l'habitude d'être à côté de Messi et Neymar, c'est pour ça.
Non, mais il faut faire attention.
C'est un truc de fou, il marche, mais il a déjà les mauvaises habitudes. Il a les mauvaises habitudes des mecs qui sont à côté de lui. Je suis désolé.
Là où je rejoins.
Mbappé rentre, honnêtement, en 5 minutes, il fait plus d'appels qu'il critiquait pendant tout le match.
Non, mais
Kevin,
tu peux pas comparer Bilal, tu peux pas me comparer Kylian Mbappé et Hugo Ekitike. C'est quelqu'un qui attend, on va dire, ses grands débuts, même s'il a fait quelques minutes par-ci par-là, qui attend ses grands débuts au Parc avec le Paris Saint-Germain. Même si c'est un joueur professionnel, même si tu peux considérer qu'il doit être prêt et que tu n'as pas à être indulgent. Mais quand même, il y a forcément une charge émotionnelle qui est lourde. Tu joues pour la première fois, t'as tellement envie de bien faire. Je sais pas si t'as joué au foot, mais peu importe le niveau où t'as joué, il y a bien la première fois où t'as joué avec l'équipe première ou avec l'équipe senior, où t'avais une charge émotionnelle. Et bah tout Hugo Ekitike qu'il est, je pense que la charge émotionnelle ce soir, elle est lourde. Moi, je suis pas d'accord avec toi pour dire qu'il a pas fait d'efforts ou qu'il a pas couru. Je trouve au contraire qu'il a essayé de se rendre disponible. Maintenant, comme disait Lionel, c'est un joueur d'espace. Il y avait peu d'espace parce que Nice a très bien défendu. Et donc voilà, je pense que en effet, son premier match en tant que titulaire, il n'est pas très convaincant. Mais attendez, les gars, il faut lui laisser du temps. C'est un joueur qui a de la qualité.
Lionel, tu vas critiquer.
Ouais. Moi, ben, je suis un peu d'accord là où je rejoins Bilal, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. C'est un jeune joueur. Et quand tu es un jeune joueur, tu as tendance à regarder tes idoles, les mecs qui sont à côté de toi. Quand tu joues à côté de Neymar, de Messi, que tu vois Mbappé, tout ça, quand tu vois, bah, tu as tendance à aller dans là où ils sont faciles. Mais tu regardes pas. Ekitike aujourd'hui n'a pas fait de l'Ekitike. Il a pas joué Ekitike. Moi, j'ai pas reconnu le joueur. Alors, il a essayé de devenir une espèce de joueur d'Ekitike qui va être au PSG. Non, le PSG l'a recruté pour ses forces et ses faiblesses. Et surtout pour ses forces. Et ses forces, c'est de prendre, de faire des efforts comme il faisait l'année dernière avec son équipe. De faire des efforts, de prendre la profondeur, savoir être intelligent, savoir aussi, parce qu'on a vu Mbappé, il est capable de lire le jeu et d'aller là où ça fait mal, de faire les appels, de se positionner pour aller dans le dos du mec qui est pas bien. Tout ça, il faut qu'il apprenne. Alors, c'est aussi, je suis d'accord avec Kevin, il faut pas non plus le condamner, il faut pas, c'est pas que le mec il veut pas, c'est que il est un peu à la piste aux étoiles, quoi. Il regarde un peu tout est beau, tout est, attention, t'es au Parc, c'est son premier match et tout ça, c'est vraiment l'émotion, c'est difficile à gérer, mais il faut vraiment qu'il reste lui-même. C'est comme quand on est en sélection, tu vois, ta première sélection, si tu surjoues, t'es mauvais. Il faut être toi-même.
Bilal, merci beaucoup.
Ouais, merci à vous les gars, je peux juste faire une petite dédicace?
Bien sûr.
Ouais, je sais pas si mes frangins m'écoutent, mais à Karim Guillès et Foued, on est quatre frangins, quatre supporters du PSG. Enfin, les temps sont un peu compliqués pour nous en ce moment, donc voilà, je leur fais une grosse bise et je leur dis à demain.
Tu rentres où, Bilal, là?
Je rentre sur Nancy.
Là, ce soir, là?
Ouh, pas ce soir, là. Petite nuit à l'hôtel, tranquillou, ouais. Et on prend le TGV demain.
D'accord. Bon, bah écoute, passe une bonne soirée avec cette victoire parisienne. Un bon retour et à bientôt. Tu reviens quand tu veux.
Salut, Bilal. Salut, Bilal. Bonsoir à tes frères aussi.
Ouais, merci les gars. Ciao, ciao.
Salut Bilal, bonne soirée. L'after hein, en direct jusqu'à minuit avec Kevin Diaz, avec Lionel Charbonnier. On débriefe la victoire du Paris Saint-Germain 2-1 ce soir face à Nice. Supporters parisiens, supporters niçois, n'hésitez pas, le 32-16. Jérémy, supporter parisien, est là avec nous. Salut Jérémy.
Salut les gars, comment allez-vous?
Bah, très bien, et toi?
Salut Jérémy. Salut Jérémy.
T'es au stade ou devant ta télé?
Non,
j'étais
pas au stade, moi j'habite dans le sud de la France, mais je suis supporter du PSG.
T'habites où?
J'habite à Aix-en-Provence.
Et vous êtes nombreux là-bas dans ce cas-là ou te caches?
On se cache un peu, on vit dans le déni, mais on vit ça à fond quand même.
T'as quel âge Jérémy?
J'ai 32 ans.
Et t'es supporter depuis quand ou t'habites à Avignon depuis quand?
Supporter depuis Djezzy Okocha. Je suis tombé amoureux de Djezzy Okocha à l'époque et depuis supporter du PSG pour toujours.
Mais t'es du sud ou t'es de Paris?
Non, je suis breton à la base, mais bon, c'est une longue histoire.
Ah ouais. Il y a un mélange d'étonnant là, Jérémy. Hein.
Exactement, t'as vu?
Non, mais ce qui me fait sourire des fois, c'est que j'entends des gens qui disent « Ah mais vous savez, maintenant à Marseille aussi, on voit des maillots du PSG ». Ou à Aix-en-Provence ou dans la région, mais ils sont quand même au courant qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ont aussi déménagé vers Aix-en-Provence, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Marseillais pur jus et nés à Marseille qui soient vraiment supporters du PSG. Ça reste à prouver encore, mais
non.
Est-ce que à Avignon, Jérémy, toi tu t'es déjà sorti dans la rue avec ton maillot de Paris ou pas?
On va éviter les soucis.
Tu le mets sous une doudoune à la Galtier.
Exactement.
Bon Jérémy, qu'est-ce que t'as pensé du match de ton Paris Saint-Germain ce soir?
Ouais, j'ai trouvé ça assez moyen. C'est vrai que bon, après l'entrée d'Mbappé fait forcément du bien. Je vais pas revenir sur Ekitike parce que vous avez fait le point et c'est vrai que je trouve, comme disait Lionel, que il déjoue un peu par rapport à ce qu'il savait faire à Reims. Donc on voit pas pour l'instant le vrai Ekitike. Après, il a très peu de temps de jeu aussi. Donc c'est vrai que c'est compliqué de prouver sur si peu de temps de jeu. T'as envie de faire encore plus les efforts.
Exactement.
Un petit peu plus. Donc c'est compliqué de prouver à cet âge-là. Mm-hmm. Moi, je voulais revenir surtout sur un petit truc qui m'exaspère un peu, c'est le point Renato Sanchez, à nouveau. Je comprends pas très bien ce mouvement. Je comprends pas très bien ce transfert. Renato Sanchez, on le sait, c'est un joueur qui est beaucoup blessé. Il y avait la possibilité de prendre quelqu'un et de remplacer potentiellement Verratti, qui a ce défaut-là aussi d'être souvent blessé. Et au lieu de faire le move à 15 km de là, il y avait Seko Fofana à faire. Ils prennent Renato Sanchez. C'est un joueur très inconstant, souvent blessé. Et la preuve, il se blesse encore ce soir. Ils empilent des joueurs au milieu, on n'a que deux milieux puisque dans le système on a deux milieux. On joue avec Vitinha et Verratti. Tu mets Fabian Ruiz qui va pas beaucoup jouer. Alors ce soir il est moyen. Après pareil, il joue pas beaucoup. C'est pas son équipe, c'est pas peut-être son système. Mais derrière t'as Renato Sanchez qui se reblesse et tu vas te retrouver avec Vitinha et Verratti. Les deux sont suspendus assez souvent et au lieu de faire Fofana et d'avoir un gars qui est constant et très bon, voire peut-être le meilleur milieu de l'année dernière. Tu fais un move un peu étrange, quoi.
Je suis d'accord avec toi. Ce qui s'est passé, je pense, dans la tête de Galette et du recrutement pour Renato Sanchez, je pense qu'ils se sont dit, ils savaient que de toute façon c'était un joueur qui se blessait souvent, mais très souvent alors qu'il était beaucoup plus utilisé. Et ils se sont dit, bon, dans le roulement, dans le dans la permutation des joueurs, on va faire un roulement. Il va pas se blesser, il va avoir moins de temps de jeu. Ses blessures, ça va, on va les oublier. Et en fin de compte, non. Enfin, moi, je le prends comme ça. Je suis persuadé que, voilà, ils ont pensé à ça. Moins de temps de jeu, moins de blessures, ça va aller. Et puis, en fin de compte, on voit que ça va pas. Il a grosse fragilité, enfin deux grosses fragilités.
Ouais, mais je suis d'accord avec Lionel. Honnêtement, je suis assez triste pour. Pour mon co-compatriote Renato Sanchez, parce que j'espérais pour lui, même si j'avais peu d'espoir, qu'au PSG il puisse enfin réussir dans un très grand club. J'ai vraiment l'impression que ce soit physiquement, mentalement, ça va être compliqué. Alors un peu comme Hugo Ekitike, c'est un joueur qui vient d'arriver. Faudra lui laisser bien sûr une deuxième chance, voire un peu de temps. Mais quand même, c'est triste de le voir rentrer, de le voir ressortir comme ça. Je pense aussi à la Coupe du Monde.
Ouais, et puis c'est compliqué. Il va falloir qu'il la saisisse parce que Vitinha et Verratti sont bien installés. Mmh. Fabian Ruiz, c'est un joueur qui a du talent et qui va sans doute aussi lui prendre sa chance quand il aura un peu plus de temps de jeu. Donc derrière, pour t'imposer dans un milieu à deux avec déjà potentiellement trois gars devant toi, ça va être...
Avant la Coupe du Monde, tu vas pas la faire. Il va falloir vraiment te retaper pendant la Coupe du Monde au camp des loges et revenir très fort après la trêve.
Pour lui, ça suffise. Merci beaucoup, Jérémy, d'être passé dans l'after ce soir.
Merci, les gars. Je peux faire une petite dédicace.
Salut, Jérémy.
Mais les gars, vous croyez que c'est Skyrock ce soir ou quoi? Mais bien sûr, tu peux, Jérémy. Vas-y.
Ouais, petite dédicace rapide à mon groupe MPG, là, avec tous mes collègues qui tapent des gros délires, là. Petite pensée pour tout le monde.
Qui c'est qui mène? Tu gagnes ce week-end ou pas?
Ouais, c'est souvent moi. Ils diront le contraire, mais c'est souvent moi.
MPG, vous connaissez, vous êtes là. Merci Jérémy, bonne soirée.
Merci les gars,
à bientôt.
Salut Jérémy. Bye bye.
Salut Jérémy.
Dans un instant, je vais prendre Jean qui nous a appelé au 32-16 et qui veut nous parler de la gestion de Galtier, le coaching. Donc, on va écouter Jean.
Le co-quoi ?
Dans un instant, la gestion du match de Galtier avec Kevin Diaz, Lionel Charbonnier. Vous êtes là au 32-16. Merci. Vous êtes là également nombreux ce soir sur le hashtag RMC Live, surtout sur le direct studio là, sur les applis. Message de Nicolas LDR. Faut arrêter avec Marquinhos. Nice n'a rien proposé de la rencontre. Oui, Paris a été mauvais offensivement, mais sérieusement, à Nice, on se contente de ça. Bruno écrit, il faut lui laisser du temps. Ekitike, il a 19 ans, ainsi que Ruiz décide de ne pas avoir Butler. C'est 20 ans Ekitike, mais ok pour lui laisser du temps. Et Romain écrit, vous êtes sévère, il ne fallait pas trop les critiquer. Petit jeu de mots rapport à Hugo. J'ai compris Romain, ce jeu de mots. 23h15, merci d'être là. L'after revient dans un instant. On continue de débriefer ce PSG Nice avec vous au 32-16 et les premières réactions en direct du Parc des Princes à suivre sur RMC.
RMC, l'after foot. RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Il est 23h18, Kevin Diaz et Lionel Charbonnier sont dans l'after en direct jusqu'à minuit. Encore beaucoup de choses hein, d'ici la fin de l'émission. On sera avec les 4 drôles de dames tout à l'heure parce qu'il y avait beaucoup de gros matchs un peu partout en Europe. On reviendra également dans une dizaine de minutes sur la victoire de Rennes à Strasbourg cet après-midi. 3-1, le 32-16. Et là aussi, pour vos supporters strasbourgeois, supporters rennais. Mais on continue de débriefer la victoire du Paris Saint-Germain face à l'OGC Nice ce soir, 2-1.
Moi ici, Thibaut, je voudrais faire une dédicace si tu me permets.
C'est le thème ce soir.
Non, une petite dédicace quand même au Cambuur Leeuwarden qui a mis 3-0 au grand PSV Eindhoven.
Ah oui, j'ai vu ça.
Et donc, voilà.
T'as joué là-bas, toi hein.
Et ouais.
Comme ils étaient en D2 à l'époque.
Ils étaient en D2 à l'époque.
Ils sont depuis. Est-ce qu'ils sont montés après que tu sois parti?
Ouais, j'ai fait partie.
Puis que t'es parti, ils sont montés.
Ouais, non, c'est ça que j'ai envie de dire. Non, mais c'est vraiment plus. J'ai fait partie de cette génération qui a permis au club de revenir vers les chemins.
Ah, ok. Moi aussi, j'ai fait partie de génération.
Ah, du coup, tu regardes, hein, tu regardes des classements, c'est vérifiable.
Allez, on retourne sur notre 9e journée de Ligue 1, donc, et la victoire du Paris Saint-Germain qui reprend sa première place cédée pendant 24 heures à l'Olympique de Marseille. Et on est avec Jean, supporter du Paris Saint-Germain, qui, je crois, veut ouvrir un dossier où on sera peut-être pas tous d'accord ce soir. Salut Jean.
Bonsoir.
Bienvenue.
Salut Jean. Bonsoir Jean.
Un droit de parole, merci beaucoup, et merci pour votre émission.
Avec plaisir, t'es dans l'after, Jean, vas-y.
Moi, j'ai du mal à comprendre qu'il n'y a pas des journalistes qui se posent des questions. Pourquoi, par exemple, ce soir, Neymar et Messi sont titulaires, après des matchs internationaux, puisque le Paris Saint-Germain sera champion de France, on est bien d'accord, et que l'objectif du club, c'est d'avoir la Ligue des Champions. Il y a une politique qui a été faite, on a d'un changement de ne pas avoir un grand nom, de prendre Galtier Campos, et j'ai du mal à comprendre pourquoi. J'ai cru en Galtier, mais je crois plus en lui. Je crois qu'il n'est pas courageux de mettre Neymar, Messi ou Mbappé remplaçant et de faire jouer des gens comme Sarabia ou des jeunes pour être en forme quand il faudra, c'est-à-dire en huitième de finale de Ligue des Champions.
Alors, déjà, juste préciser, Jean, on est d'accord? T'as pas écouté le match sur RMC, on est d'accord?
Non, on est d'accord.
Ok, parce que sache que si t'avais été là, Kevin et moi, c'est vrai qu'on s'est permis de
dire
plusieurs
exactement
fois
ce que voilà, tu viens de dire.
Déjà ce que t'as dit, et je crois d'ailleurs que Lionel n'est pas d'accord sur cette histoire. Alors, juste avant de te donner la parole, Lionel, donc je vais récapituler. Donc, Mbappé démarre sur le banc et Ekitike titulaire. En termes de coaching, à la 59e, il fait sortir Ekitike, il fait rentrer Mbappé. Il fait aussi sortir Bernat et rentrer Mendes, mais bon, ça c'est anecdotique. Et à la 88e, sortie de Messi pour faire rentrer Sarabia.
Moi, ce que j'ai dit, Jean, pendant le match, avant de laisser répondre Lionel, c'est que je ne comprends pas pourquoi Neymar et Messi ont commencé ce match face à Nice, sachant que Messi a fait le tour du monde et que Neymar a joué titulaire il y a à peine 3 jours. Enfin, il y a 4 jours.
Je vous ai pas écouté au début.
Mais en plus, Lionel n'est pas d'accord, donc ça va être l'occasion
juste ce que j'ai dit pendant le match. Et moi, je trouve que, au contraire, c'est le genre de match parfait pour faire jouer des joueurs quand même de grande qualité, comme Sarabia pour les récompenser, comme Carlos Soler, sachant qu'il y a énormément de matchs qui vont arriver et qu'il y a notamment un gros match au Benfica qui arrive cette semaine. En tout cas, voilà ce que j'ai dit, je suis d'accord avec toi.
Lionel?
Non, je ne suis pas d'accord du tout. Pas d'accord du tout, parce que je pense qu'il a été pris, Galtier, dans son management, il a été pris par la tournure du match. Je pense qu'il avait décidé de continuer de faire travailler Messi et Neymar pendant un laps de temps, de faire souffler Mbappé, et peut-être, selon l'évolution du score, je pense que s'il y avait une meilleure maîtrise, tu sais, la fameuse maîtrise de la maîtrise du PSG qu'ils n'ont pas. Mais s'il y avait eu cette maîtrise du score, je pense qu'il aurait fait sortir et Messi et Neymar beaucoup plus tôt. Et il aurait fait ces changements, il les aurait fait souffler, peut-être tout en faisant rentrer Mbappé, je suis même pas certain. Mais je pense que déjà, quand même, quand t'es le PSG, tu te dois, de toute façon, gagner ton match. Nice n'était pas le premier venu, et on l'a vu ce soir. Quid de Galtier, si ce soir il avait enlevé Messi, Mbappé et Neymar, et qu'il aurait perdu le match, parce qu'on sait pas ce que ça aurait fait. Admettons. Qu'est-ce qu'on aurait dit à ce moment-là?
Honnêtement, Lionel, je pense pas qu'on lui aurait reproché. Et je suis pas sûr que les supporters parisiens lui auraient reproché non plus.
Non, je pense, on est d'accord que le PSG va changer.
Ah ouais? Une défaite, vous la reprochez pas? Depuis quand les supporters du PSG ne vont pas reprocher une défaite contre le...
Tu connais le prix de Carlos Soler et de Ego Ekitike?
Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du prix des joueurs?
Excuse-moi,
si
tu achètes le meilleur joueur de Valence, ce n'est quand même pas pour te dire qu'il ne va pas t'aider à battre l'OGC Nice quand même, qui en a pris 3 contre Marseille il y a quelques semaines.
Alors on met tous les joueurs les mieux payés et puis on fait l'équipe et on va gagner la Champions League.
Je suis pas en train de te dire ça, je suis en train de te dire qu'ils ont quand même recruté.
C'est ce que j'entends. Mais non, tu sais combien on a payé ce joueur-là? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre combien il l'a payé? Si tu prépares ton match, tu prépares des temps de jeu, des mecs pour qu'ils soient bien. Regardez en face, regardez Arsenal comment ils font, regardez Chelsea comment ils font, regardez Manchester City comment ils font. Ils font exactement pareil.
C'est bon. Kevin et après Jean.
Je suis juste en train de te dire que quand tu achètes un joueur au prix qu'ils achètent, c'est des joueurs de qualité. C'est pas des joueurs qui sont mauvais. Si tu achètes ce joueur et que tu veux dépenser ce prix-là, peu importe le prix si tu veux, mais tu as quand même dépensé une certaine somme. C'est-à-dire que le gars a une valeur marchande. Un gars comme Carlos Soler, c'est un bon joueur de foot. Et je te dis simplement qu'un joueur de foot comme Carlos Soler ou comme Pablo Sarabia, qui a été excellent l'an dernier avec le Sporting, ils peuvent faire partie d'une équipe du Paris Saint-Germain avec Hugo Ekitike qui peut battre Nice quand même. Marseille les a battus avec Payet, 36 ans, et Luis Suarez qui vient de rétaffer. Donc peut quand même les battre.
Faisons tourner dans les matchs de championnat et puis allons à la Coupe d'Europe comme ça et vous verrez comment ça va finir l'histoire.
Tout le monde fait tourner.
Les gars, Lionel, Kevin.
Pas tous les joueurs en même temps, c'est faux.
Laissons répondre Jean qui est là au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Jean,
c'est très intéressant ce que vous dites. Mais ce qui va se passer, ça va être comme chaque année. C'est-à-dire qu'on n'a pas un entraîneur courageux. Je ne sais pas s'il existe sur la planète d'avoir un entraîneur courageux. C'est-à-dire qu'il ose sortir Neymar et Messi quand on mène 3-0. C'est pas la peine de sortir à la 88e minute, ça sert à rien. Je parle pas de ce soir, mais je parle des matchs où le PSG mène 3-0, qu'il baladait, et on les sort à la 85e, on veut pas faire des égos, donc on sort Messi, Mbappé, en même temps, ou en alternance. Ce qui va se passer, c'est comme tous les ans. Moi, je suis le PSG depuis 50 ans. Je sais très bien comment ça va se passer. En 8e de finale, on va avoir Messi et Neymar ou Mbappé qui vont être blessés. Parce qu'ils auront fait trop de matchs, parce que l'entraîneur n'aura pas le courage d'avoir fait une bonne gestion. Alors je suis vraiment déçu que Galtier n'ait pas le courage, parce qu'en fait c'est du courage qu'il faut. C'est du courage de dire à Neymar et Messi ou à Mbappé, vous êtes en passant, ou au bout de 48 minutes, quand on mène 3-0 à la mi-temps, on vous sort. Voilà, mais non. C'est des égos, tout ça, et c'est triste.
Et Lionel,
Jean, tu nous rappelleras d'ici peu, et gardez bien ce podcast en tête, parce que vous voyez que et Neymar et Messi, tout comme Mbappé, parce que l'année dernière on disait la même chose pour Mbappé. Ah ouais, mais il fait pas sortir, il fait pas tourner, il fait pas si. Là, il a mis Mbappé quand même. C'est le grand Mbappé. Il mettra tout aussi bien le grand Messi comme il l'a déjà fait sortir une fois. Il le mettra sur le banc et Neymar la même chose. Mais... sauf que tu peux pas faire tourner quand tu vas jouer un match de Coupe d'Europe que tu prépares. Tu peux pas mettre une équipe bis comme ça 3 jours avant. C'est pas vrai.
Lionel...
c'est pas vrai. Vous êtes des utopistes.
Lionel. J'entends vos arguments des deux côtés, mais effectivement, quand Jean souligne la sortie de Messi aujourd'hui à la 88e, ça sert à quoi?
Alors, je te le l'ai expliqué. On en reparlera parce que et Jean a dit, je veux pas parler de ce soir parce que je pense qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait que dans son plan de jeu, dans son plan de match, il a pas pu faire ce qu'il voulait. Tout simplement parce qu'il y a eu ce un partout. Quand est-ce qu'il fait rentrer Mbappé? Parce qu'il y a un partout. Quand est-ce qu'il fait les, pourquoi mais, il fait mais, pas les, mais, d'autres
moi,
changements
moi, je
dans le milieu
d'accord
tout ça?
Avec toi là-dessus, hein. Je pense que c'est possible qu'il ait pensé à faire sortir les, mais Lionel. À
mais un on part... en reparlera, vous verrez.
Je te pose une question.
Je connais trop bien Galette. D'accord. Il n'y a pas un milliardaire au-dessus de lui qui lui fera changer d'idée, qui l'empêche pas de faire ce qu'il veut.
Je sais pas si tu connais, est-ce que tu connais bien Carlos Soler, par exemple? Tu connais bien. Tu l'as déjà
connu.
Est-ce que tu penses qu'à un partout, Carlos Soler ou Sarabia ne sont pas capables d'aider le Paris Saint-Germain à battre l'OGC Nice?
Vous êtes en train de parler des trois en même temps.
Je te parle de Carlos Soler et de Sarabia. Est-ce qu'ils peuvent remplacer Messi et Neymar à 25 minutes de la fin pour amener de la fraîcheur et pour faire gagner le PSG?
Oui, mais pas les trois en même temps. C'est ce que vous disiez, les trois en même temps. Vous parliez des trois en même temps.
Je te parle de ce soir.
Ce soir, c'est ce que tu as dit tout à l'heure.
D'accord.
Tout à l'heure, tu as dit, j'aurais bien aimé qu'ils mettent Messi, Neymar, Mbappé sur le banc.
J'aurais bien aimé. Maintenant,
Dis les trois, c'est une copie, ça, c'est pas du football.
En même temps, les gars.
De haut niveau.
C'est ok.
Qu'il les fasse changer.
Il y a pas de souci. Donc, mais je te le dis, ok, il ne l'a pas fait. C'est lui le patron, c'est lui qui décide. Mais dans ce match-là, il a fait rentrer Mbappé. est-ce qu'il pouvait faire rentrer aussi Sarabia et Carlos Soler?
Oui, on parle pas de la même chose.
Mais c'est faire changer ce trois mecs quand même.
Attends, laisse répondre Lionel. Vas-y Lionel.
Non, non, ce que vous disiez c'était changer les trois, les faire souffler les trois, bon. Les trois en même temps et mettre et commencer avec une autre équipe. Ça je suis pas d'accord. Après qu'ils puissent changer Neymar, parce qu'à un moment donné Neymar à la 70e, il en pouvait plus à peu près, peut-être même un peu avant. Donc anticiper ça et à la 60e le faire changer.
Mais
aussi Neymar.
Pourquoi il l'a pas fait?
Mais pourquoi? Ah ben ça par contre
après il y a pas de courage.
Non, ben on en reparlera, on se rappellera surtout rappeler le jour où Neymar.
Galtier, j'étais un des pros Galtier, mais je peux vous dire que le PSG ne remportera pas la Ligue des Champions cette année. Je vous le dis, on ne remportera pas la Ligue des Champions.
Mais ça c'est d'autres choses, ça c'est d'autres choses.
Bon en tout cas,
ça c'est d'autres choses.
L'objectif, on sera champion de France, si on perd ce soir, c'est pas grave. On a battu le Real de Madrid il y a quelques années 4-0, il y avait Sarabia sur le terrain, il y avait aucune star. Je me rappelle plus de l'attaque, c'était Sarabia à droite, on avait battu le Real. On part 4-0, il n'y avait plus de star, je ne sais plus quelle est star. Il n'y avait aucune star sur le terrain. Devant.
C'est vrai.
On avait gagné 4-0, Sarabia c'est un superbe joueur, on le met sur le côté. Alors, le gars, il est. Comment ça se fait qu'il n'est pas rentré depuis le début? Il n'est pas titulaire, le gars. Sarabia c'est un super joueur.
Jean.
Il peut dépanner. On veut Neymar et Messi au top. Et Mbappé, on veut les trois en 8e de finale contre City, Liverpool, on veut gagner les champions.
Je suis d'accord avec Jean.
Le championnat va gagner.
Jean, tu m'as mis un bazar ce soir dans l'équipe là, hein?
Non, mais c'est un débat, c'est un
débat. Non, mais parce que j'entends divers points de vue.
J'entends tout à fait ce que dit Lionel, et je pense, Jean, qu'au fond, Lionel a raison. Changer les trois, ce n'est pas du tout l'idéal. Mais c'est juste que moi, je veux aussi, comme Jean, que Messi, Neymar, qui vont avoir, j'espère pour eux en tout cas, et Mbappé, une belle Coupe du Monde.
Ça va
j'espère qu'après la Coupe du Monde, ils seront toujours frais pour emmener le PSG le plus loin possible.
Jean, merci beaucoup de nous avoir appelés ce soir, en tout cas. Passe un bon week-end.
Salut Jean. Salut Jean.
Et tu reviens quand tu veux.
Salut Jean.
Salut Jean.
Avec plaisir. Bonne soirée, Jean. Bye bye. 23h30, l'after animé ce soir avec Kevin Diaz et Lionel Charbonnier en direct. Jusqu'à
minuit. Ah mais c'est bon ça.
Mais c'est ça l'after ou pas les gars? Est-ce que vous êtes aussi animé? J'aimerais qu'on dise un mot de l'OGC Nice. Est-ce que vous pensez que alors Nice qui perd ce soir à nouveau, c'était le PSG en face, mais bon match,
c'est pas mérité.
Changement de système. Est-ce qu'il y a il tient peut-être quelque chose là, Lucien Favre? Enfin,
pour moi c'était le jour et la nuit avec le match contre Marseille par exemple. J'ai vraiment bien aimé ce qu'ils ont proposé. Viti intéressant. Moi c'est un joueur que je découvre. J'avoue que je connaissais pas trop l'Italien. Dante, Rosario, je connaissais beaucoup plus. Je l'ai jamais vu jouer comme ça défenseur central. Même si je sais que c'est un joueur sobre et polyvalent. Mais voilà, même Ramsey et Barclay, que j'ai trouvé correct pour des joueurs qui ont peu de rythme. Quand tu peux te permettre quand même de faire rentrer des joueurs comme Thuram et Nicolas Pépé. Non, il y avait quelque chose. Attal, on sait que c'est un joueur à l'aise dans un 3-5-2. Sofiane Diop, j'adore. Je trouve que c'est un joueur qui va falloir qu'il ait encore beaucoup de temps de jeu, mais qui a énormément de qualité. Je suis surpris et agréablement surpris par le GC Nice ce soir.
Lionel, est-ce que tu es d'accord avec Kevin?
Ah bah ouais, complet. Complet. Okay. Le fait de faire redescendre Rosario, j'ai trouvé ça très malin, d'autant plus que Favre lui avait reproché un peu son activité en milieu de terrain. Là, il l'a fait redescendre. Bah, peut-être que c'est son vrai poste. Et voilà, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Là, et moi, je l'ai trouvé très bien derrière le Viti, Dante, Rosario, ça tourne. Barre, on sait qu'il est capable de faire le piston. Atal l'a très bien fait. Il a même fait petit pont à Neymar. Tu imagines
des ouais, anciens.
non, entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, c'est quelque chose pour moi, quelque chose à creuser. Et c'est peut-être, voilà. Et alors, j'en parlais chez Rotten. Mon souci pour moi, c'est que il y a eu un recrutement que je trouve génial. Moi, ce recrutement-là, l'effectif de Nice, je le trouve très bon.
Génial, carrément.
Ah, je le trouve très bon. Le Diop, Pépé, Laborde, l'association. Enfin, franchement, je le trouve très bon. Rosario, tout ça, très intelligent. Le seul souci, c'est que ce sont des dirigeants qui ont fait l'effectif et qui ont dit à l'entraîneur, bah maintenant démerde-toi avec ça. C'est pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. Quand tu fais parce que aujourd'hui, Favre, il va un petit peu contre nature. Son 3-5-2. Ou 5-3-2 ou 5-4-1 comme tu veux, c'est pas son truc de prédilection. Et donc, bah, il y vient, mais il y vient, tu vois, tâtonnement. C'est pas sa première réflexion, c'est pas son truc. Alors, il faut lui laisser du temps. Heureusement, ils ont eu l'intelligence de lui laisser du temps. Ils l'ont pas dégagé là pendant la trêve internationale. Il faut lui laisser du temps à Favre parce que là, il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose de très bon. Maintenant, il va falloir se projeter beaucoup plus vite. Il y a des offensives à faire. Ils vont pas pouvoir défendre comme ça, enfin que comme ça, avec l'attaque qu'ils ont.
Nice qui reste provisoirement 13e de Ligue 1, qui ira à Slovaco jeudi en Coupe d'Europe à 18h45 et recevra 3 dimanche prochain le PSG. Ce sera à Reims en championnat samedi. Et donc ce match à Benfica mercredi en Ligue des Champions. Benfica, ça y est, c'est terminé, qui a fait 0-0 à Guimarães ce soir en championnat pour son dernier match avant d'affronter le Paris
Saint-Germain. Peut-être qu'ils ont fait tourner.
Ouais, alors là j'avoue que sur la compo, j'ai pas eu la compo, j'ai pas la compo sous les yeux.
Si t'as le...
Il va regarder. Dans un instant, supporter strasbourgeois, supporter rennais, n'hésitez pas, le 32-16. On revient sur la victoire du Stade Rennais 3-1 cet après-midi contre Strasbourg. Juste avant, il y a deux infos que je voulais vous donner sur l'OGC Nice. En fait, Jean-Pierre Rivet était au micro de Canal et président de Nice qui a répondu sur les deux sujets du moment là concernant Nice. Déjà, l'interview de Julien Fournier cette semaine dans l'After, qui a fait beaucoup de bruit. Je rappelle qu'il a dit, si j'explique les raisons pour lesquelles Christophe Galtier et moi on s'est disputé, il n'entrera plus dans investir en France et en Europe. Eh bien, Jean-Pierre Rivet qui lui explique que Fournier a été trop loin dans son propos. Il dit, je cite, oui, il y a eu des tensions entre les deux hommes, j'étais à leur côté, donc je peux savoir exactement les tensions. La saison a été compliquée, cela a créé des tensions sur le sujet en question. Il n'y a pour moi aucune matière à créer de la polémique, dit ce soir Jean-Pierre Rivet. Et puis, autre sujet, bien sûr, concernant directement Lucien Favre, vous savez qu'on a beaucoup parlé de l'éventuel retour de Pochettino en Ligue 1 pour remplacer Favre. Il dément complètement Rivière. Il dit ce soir qu'il n'a jamais rencontré Pochettino, qu'il n'a jamais été question de remplacer Lucien Favre. Voilà.
Et c'est pas ce qu'a dit Favre.
Mais écoute, c'est ce qu'a dit Rivière en tout cas ce soir.
Ah ouais,
le Benfica.
Oh oui, je l'ai entendu dire. Ouais. T'as raison.
Juste pour vous répondre, messieurs, le Benfica a bien fait tourner. Alors pas les trois attaquants pour le coup, avec David Neres qui est sorti à la 70e pour Julian Draxler qui devrait sûrement être titulaire et Gonzalo Ramos qui également est sorti à la 70e.
Voilà pour ce Paris Saint-Germain Nice et donc cette victoire du PSG 2-1. Est-ce que la remontée rennaise ne serait pas enclenchée désormais? 13e fin août, les Bretons sont ce soir 5e de Ligue 1 provisoirement. Ils ont battu l'équipe qui gagne jamais cette année, Strasbourg, 3-1, but de Kalimuendo, Terrier, Guiri, Habib Diallo a réduit l'écart sur penalty. Un match marqué par l'exclusion de Niamsi à la 28e alors qu'il y avait 0-0. Est-ce qu'on est en train de retrouver un petit peu le Rennes de l'année dernière, ou c'est encore un peu tôt, Kevin et Lionel?
Bah oui, non mais on va retrouver, on espère, en tout cas petit à petit, une équipe qui nous avait donné beaucoup de plaisir l'an dernier. Forcément, ils n'ont pas perdu leur qualité en un été. Par contre, quand même, le carton rouge de Niamsi, il est sévère. Moi, je ne supporte pas ce genre de carton rouge où le gars dégage le ballon, prend le ballon. Ah, c'est vrai que son geste, il finit sur la cuisse Mais honnêtement, c'est. Je peux comprendre l'arbitre, mais franchement, c'est sévère.
On a eu des plus contestables.
Et par contre, derrière, après, Rennes a clairement déroulé. Et cette équipe, de toute façon, quand Martin Terrier retrouve sa sensation devant le but, Kalimuendo qui est intéressant. C'est vrai que quand on voit Kalimuendo performer avec Rennes, et Hugo Ekitike, on se dit tiens, peut-être qu'il n'aurait pas fait tâche dans l'effectif du Paris Saint-Germain, mais en tout cas cette équipe rennaise, elle retrouve des couleurs et ça fait plaisir à voir.
Lionel, tu retrouves le Stade Rennais qui nous éblouissait l'année dernière.
Oui. On l'avait annoncé, rappelle-toi dans certains afters, on en parlait. Moi, je trouvais que le jeu rennais était en train de se mettre en place. Alors, il y avait beaucoup d'occasions, mais un manque de réalisme. Terrier était en train de revenir, il avait retrouvé un peu le chemin des filets, mais c'était pas exceptionnel encore. C'était pas encore le Terrier de l'année dernière. Pour moi, ça manquait de réalisme, ça manquait à la dernière passe, ça manquait à la finition. Mais dans le jeu, je l'ai trouvé quand même de mieux en mieux. Le travail finit par payer, c'est normal. Il fallait être un peu patient. Je pense que oui, les Rennais sont vraiment sur la bonne voie.
Strasbourg, 9 matchs, 0 victoire cette saison en Ligue 1. Toujours la seule
incroyable
équipe à ne pas avoir remporté le moindre match. On va écouter Julien Stéphan nous parler de cette période compliquée. je vous demanderai après s'il faut commencer à s'inquiéter ou pas, parce que ça fait des semaines que qu'on nous dit faut pas s'inquiéter. D'ailleurs, quelqu'un ici, le boss, nous le dit souvent. Est-ce qu'il va pas quand même falloir finir par s'inquiéter pour Strasbourg, Julien Stéphan, cet après-midi?
On va discuter avec les joueurs demain matin. Voilà. Oui, c'est 9 matchs sans victoire, c'est vrai. On a passé beaucoup de matchs avec énormément d'absents, avec énormément de blessés. Là, on avait l'opportunité de récupérer, je dis pas tout l'effectif parce qu'il en manque encore, mais une partie de l'effectif. On a vu qu'il y avait de la consistance, qu'on était capable de mettre en place des choses très intéressantes contre un des cadors du championnat. On était capable, voilà, de faire plus que jeu égal dans cette situation-là. Après, quand Strasbourg joue contre Rennes et qu'il se retrouve pendant une heure en infériorité numérique, ça devient très dur.
Julien Stéphan, après la défaite 3-1 cet après-midi contre le Stade Rennais.
Bah le truc c'est que c'est vraiment pas la saison pour avoir ce genre de départ catastrophique avec avec les quatre descentes. Ça va être forcément très compliqué maintenant jusqu'au bout, même si je pense que Julien Stéphan est assez intelligent pour le savoir. Le souci que j'ai, c'est que d'abord t'as les blessures. Donc t'as quand même pas mal de malchance. Ensuite là t'as un carton rouge qui est quand même sévère.
J'ai des messages d'ailleurs de Strasbourgeois sur le Direct Studio qui me parlent de l'arbitrage. Et est-ce qu'à un moment donné on va remettre en cause l'arbitrage concernant Strasbourg, nous dit-on?
Ouais, non, mais après je pense pas que c'est un arbitrage contre tel ou tel club, mais je pense aussi que bien sûr les arbitres ils font pas ça à mal, et le gars il a pris cette décision et il a cru que c'était la bonne. Maintenant Strasbourg, ce que je te dis, c'est les blessures, c'est les poteaux, c'est maintenant le carton rouge. T'as vraiment l'impression que leur saison, elle ne veut pas commencer. Et là, il va avoir un enchaînement de matchs. Il va vraiment falloir faire une série, parce que sinon, ça peut commencer à être très très difficile pendant la trêve de cette Coupe du Monde. Hein.
Lionel.
Ouais, c'est toujours très compliqué quand ça t'arrive comme ça, parce que à chaque fois il y a des défaites, on se dit mais ils méritaient pas de perdre. Il y a tout le temps, comme dit Kevin, il y a tout le temps un élément contre, soit un carton rouge, soit un poteau rentrant, soit un poteau sortant quand c'est offensivement.
C'est l'année dernière. Hein. Bon, il y a exactement. Y avait d'autres histoires,
donc il faut s'en inquiéter maintenant. S'en inquiéter, c'est peut-être un gros mot, mais il faut vraiment réagir de suite. Il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et ne plus accepter ça. Il faut être très très fort dans la tête. Il faut beaucoup de solidarité. Il faut investir très très solide, parce que là, quand c'est comme ça, franchement, il faut vraiment une unité de groupe. Tu peux renverser cette tendance que si t'as une unité. Alors je sais que au niveau des dirigeants et tout ça, il y aura aucun souci. Ouais. Les dirigeants seront toujours derrière leur entraîneur, derrière leur équipe, derrière les joueurs. Il y a aucun souci. Il faut maintenant que voilà, ce soit quelque chose qui vienne et même de la part des supporters. Surtout qu'il ne se passe pas du côté des supporters, et je ne le pense pas d'ailleurs à Strasbourg, je ne pense pas que ça arrive comme ça s'est passé à Bordeaux, avec cette fracture entre l'équipe et les supporters et tout ça. Là, c'est, bah voilà, t'as ton équipe, ton club, il est en difficulté. Honnêtement, je pense aussi que ce n'est pas mérité, mais il faut savoir se prendre en charge, taper du pied une fois que t'es en train de couler comme ça et que tu t'as touché le fond, et bah c'est là qu'il faut bien taper du pied, faire peut-être une petite série, un petit truc, mais, et prendre match minute, mi-temps après mi-temps, match après match.
Je vois bien parce l'image, que, comme quand tu es au fond de la piscine.
Ouais, c'était très bien.
Mais exactement, non, franchement.
Bien, cette image. Franchement, je la ressortirai. Ouais.
Et on embrasse Isabelle Adjani. Tiens, les prochains matchs de Strasbourg, là, en
mais
octobre.
J'ai un pull bleu marine.
Oui, et oui. Qu'est-ce qu'il y a comme mélomane dans.
Attends, je t'envoie la photo. Mais tu vas voir.
Ah, t'as vraiment le pull.
Mais ouais.
Il est chez lui, lui. Vas-y, envoie la photo. Attends, on est tous mélomanes, mais le problème, c'est qu'on n'aime pas tous la même musique. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser. Les prochains matchs de Strasbourg, déplacement à Angers, important dimanche prochain. Il y a ensuite Strasbourg-Lille, Toulouse-Strasbourg et Strasbourg-Marseille pour conclure ce mois d'octobre. 23h42, l'after est là, on dirait jusqu'à minuit avec Kevin Diaz, Lionel Charbonnier et son petit pull marine. Dans un instant, les drôles de dames qui arrivent dans l'after. Il y avait énormément de gros matchs, beaucoup de choses à retenir un peu partout en championnat. Donc Julien Laurence, Paul Breitner, Johan Crochet, Fred Hermel nous rejoignent dans un instant pour une sorte de petit avant-goût du Génération After que vous aurez lundi soir comme toutes les semaines entre 20h et 22h. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.
Thibaut Giangrande.
Nous sommes samedi le 1er octobre. Eh oui, on bascule sur une autre partie de l'année qui nous emmènera à la Coupe du Monde au Qatar d'ailleurs. Ben, on peut le dire maintenant, c'est le mois prochain les gars, 1er octobre. Kevin Diaz et Lionel Charbonnier sont là jusqu'à minuit et on est en compagnie des drôles de dames. Paulo Breitner, Julien Laurence, Johan Crochet, Fred Hermel, ils sont tous là. Salut les gars.
Hola Chico.
Salut Thibaut, salut à tous.
Salut messieurs.
Quel plaisir
de vous. Ils sont tous là, ça rappelle une chanson. Hein.
Laquelle, puisqu'on était en pleine musique?
Bonne chavour. Ils sont venus, ils sont tous là.
Ah oui.
Ils sont du sud de l'Italie.
Ils sont tous là.
À maman.
Ben oui. Oh, c'est bien d'avoir un jeune homme comme toi cultivé.
Ouais, ah, le seul qui est du sud de l'Italie, c'est Daniel.
Côté. Ça c'est mon et côté un là. Petit peu ringard. Les gars, petit avant-coup de génération after ringard, ce soir.
Pas ringard d'être cultivé musicalement.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous serez tous là lundi, les gars, à 20h, hein, comme toutes les semaines, pour revenir pendant 2 heures sur vos week-ends respectifs. Mais ce soir, là, pendant un gros quart d'heure, on va revenir sur, on va développer l'info du jour à retenir chez vous. On va commencer par les deux qui avaient une affiche ce soir, un gros match en Espagne et en Italie. Et j'aurais commencé avec toi, Johan, parce que l'AC Milan s'est imposé à Empoli 3-1. Il y a eu une fin de match assez incroyable, quand même, quand j'ai vu le score final en 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, alors c'est un match très ouvert avec une équipe d'Empoli dont je parle régulièrement, qui est une équipe très joueuse, qui met souvent en difficulté les grosses équipes parce qu'elle a cette volonté de toujours aller vers l'avant, de ressortir proprement le ballon, de pas le jeter n'importe comment, de pas paniquer avec le ballon, etc. Et ce match a été très compliqué aussi parce qu'il y avait des absences. Et Maignan et Théo Hernandez, qui sont deux joueurs évidemment très importants. Il y a aussi Origi qui est pas là, Ibrahimovic, maintenant on le sait depuis un petit moment. Et puis il y a eu deux blessures déjà en première mi-temps, donc ça fait deux changements à faire en première mi-temps et deux que tu ne feras pas par la suite. Et ensuite un troisième blessé en cours de match, Simon Kjær. Donc ça fait beaucoup quand on ajoute aux blessés que je viens de vous dire, dans une semaine où ça va jouer Chelsea, la Juve le week-end prochain et re-Chelsea en Ligue des Champions. Donc là ils doivent faire ces trois matchs-là sans doute sans Théo, sans Maignan, sans Origi, sans Ibrahimovic, sans Kjær, sans Calabria et sans Sailmakers. Donc ça commence à faire beaucoup. Pour autant, vous avez un entraîneur qui ne prendra jamais l'excuse des blessures. Il s'appelle Stefano Pioli. Et tous ne sont pas sur le même degré d'analyse, on va dire ça comme ça. Et honnêtement, ce match-là était très plaisant parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions, de situations. C'était pas un match très abouti tactiquement, très abouti techniquement. Mais quand tu as deux équipes qui veulent jouer au foot, quoi qu'il arrive, généralement le résultat est positif. Avec plein de choses qui vont plat, qui ne vont pas, pardon, plein de difficultés, plein de trucs où tu te dis mais c'est pas possible qu'il rate ça, ou c'est pas possible qu'il fasse pas mieux là, etc. Mais quoi qu'il arrive, tu t'ennuies pas devant un match comme ça.
Et avec ces buts là, il y a eu 3 buts au-delà du temps additionnel, hein, c'est ça au final.
C'est ça, l'égalisation d'abord d'Empoli par Bayrami sur un joli coup franc, mais bon, Tatarusanu il est pas clair quand même sur le coup franc parce qu'en plus c'est côté ouvert donc de son côté.
Il a quel âge Tatarusanu maintenant?
Bonne question.
Je crois qu'il a 37. Ouais. Hein.
Attends, il arrive à la quarantaine.
Il a,
hein.
Il a 36 ans, très exactement.
Ouais. Ah, c'est tout.
C'est déjà pas mal.
Ouais, mais je le voyais plus vieux que ça. Tu vois.
Parce que t'as ensuite, l'habitude d'en entendre dans les jingles de l'after toutes les semaines. Tata,
oui, avec Jean-Michel Aulas. Il y a eu le but ensuite sur l'engagement, sur le coup d'envoi, donc toujours 92e minute, par Balot Touré, qui se retrouve en pleine surface. Alors c'est intéressant parce que c'est un coup d'envoi où Empoli est un peu déconcentré parce qu'ils sont toujours en train de fêter le but. Le ballon arrive sur Léo côté gauche, et il met un long ballon devant. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a plus de joueurs du Milan qui se sont projetés dans la surface que de défenseurs d'Empoli qui y sont. Donc Balot Touré donne l'avantage, ça va lui faire un bien fou. Et ensuite, Léo est parti en contre. Simple, hein, vous mettez un ballon dans l'espace quand il n'y a plus personne, vous ne le revoyez pas. Hein, c'est terminus, tout le monde descend et il lobe Vicario, sorti un peu à son encontre dans la surface. Donc voilà un peu comment ça s'est passé, la fin de match un peu folle et qui a ajouté un degré un peu piquant à ce match-là qui était franchement agréable.
Et là, c'est Milan qui remonte provisoirement à la 3e place. Le match du soir en Espagne, Fredo, la victoire du Barça. Grâce à qui? Avant, tu disais ça pour Benzema, mais maintenant, il faut que tu fasses pareil pour le Barça. Grâce à qui? Qui a marqué?
Le comique de répétition, c'est parfois chiant, mais l'efficacité, le talent de répétition, c'est très bon en football. C'est Robert, on va bientôt l'appeler ici en Espagne. Robert Lewandowski, qui est en train de, chaque match qui passe, de marquer un peu plus de son empreinte, le championnat espagnol. Vous savez, il a marqué 9 buts en 7 matchs. Pour ses 7 premiers matchs en Liga, il faut remonter à 1996. Vous vous souvenez, Johan, tu t'en souviendras, de Bobo Vieri? Christian Bielli avec l'Atlético 96, la plus belle saison de l'Atlético dans la mémoire des Colchoneros, c'est le doublé, l'année du doublé Coupe Championnat. Et ben il n'y a pas un débutant en Liga qui avait marqué autant de buts que Lewandowski depuis l'Italien. Et ça veut dire quelque chose d'important, parce que le Barça a traditionnellement des problèmes juste après les breaks internationaux. Vous savez, quand on revient de 15 jours de sélection, le Barça en général perd des points, surtout les matchs qu'ils jouent le samedi, paradoxalement. Les statistiques sont là. Le match n'a pas été terrible du Barça sur la pelouse d'un bon Mallorca, dirigé par un mythique entraîneur, le Vasco Aguirre, Javier Aguirre, l'entraîneur mexicain. Et bah, dans ces cas-là, il suffit du talent de ce type qu'on appelle Lewandowski. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le crochet qu'il fait sur un défenseur de Mallorca est absolument extraordinaire, et il place la balle, mais une frappe qui lèche le poteau opposé. Enfin, voilà, c'est vraiment la pièce manquante qu'il fallait au Barça pour avoir toutes les ambitions cette saison. Et puis vous avez eu un ou deux très bons arrêts de Ter Stegen, et ben ça suffit. Oui, en championnat et même en Ligue des Champions, parfois ça suffit d'avoir un immense buteur et un immense gardien. Il manquait un type comme ça au Barça. J'ai l'impression de me répéter, et je vous annonce déjà, je crois que je vais souvent me répéter dans l'after, mais Lewandowski est sans aucun doute la grande révélation, pas du football mondial, on le savait, mais du championnat cette saison. Et le Barça a trouvé en ce joueur ce qu'il lui fallait.
Bon, quand j'entends parler de Lewandowski, derrière, j'ai envie d'aller voir Polo, même si maintenant ça n'a plus rien à voir.
Il te manque un petit peu, Polo, ou pas ?
Bah, je ne l'ai pas vu hier soir. Il ne m'a pas manqué hier soir.
Ah bon ?
Au Bayern, le 4-0, ça a été tranquille.
Ouais, ça faisait un petit moment qu'il n'a pas gagné.
Le dossier Lewandowski est fini en Allemagne.
Oui. Et d'ailleurs, on en a un peu parlé hier dans l'after, Polo, mais parlons plutôt du leader qui n'est pas le Bayern. Oui. L'Union Berlin qui a perdu aujourd'hui, battu par un Eintracht Francfort qui va vraiment beaucoup mieux depuis 15 jours.
C'est pour ça que Polo, il a l'air un peu moins en forme là.
Mais non, enfin, fallait bien que ça arrive quand même. L'Union Berlin n'a pas vocation à remporter le championnat. Que Fred parlait de Lewandowski en Espagne. Il y a un autre attaquant qui est passé par le championnat de France et qui est maintenant international français, qui est en train d'exploser en Bundesliga. C'est Kolo Muani, qui lui a encore fait un match extraordinaire, au moins pendant une bonne heure de jeu. Il suffit de voir la passe qu'il fait pour Mario Götze pour le 1-0, la façon dont il avale les kilomètres, etc. Et donc l'Union Berlin.
Juste Polo, excuse-moi, je te coupe, mais Mario Götze, le PSV Eindhoven, ils l'ont bien requinqué quand même, hein.
Ben, ils l'ont bien requinqué. En fait, c'était vraiment l'une des attractions du retour en Bundesliga, parce que évidemment l'ancien enfant prodige du foot allemand, et que ça c'est passé, il a la trentaine maintenant, il aide beaucoup. Malheureusement, il est sorti sur blessure à la 66e, mais je voulais juste finir sur Kolo Muani. C'est le gars, c'est peut-être, Fred parlait de la pièce manquante pour le Barça, c'est peut-être la pièce manquante, un véritable buteur, mais qui est pas que ça, qui est aussi passeur, qui manquait à Francfort. Et quand tu sais qu'il y a Tottenham qui arrive, la double confrontation contre Tottenham, et que Francfort l'emporte 2-0 alors qu'ils ont du mal à faire le jeu à domicile. Malheureusement, le Français s'est fait expulser parce qu'il a embarqué une cheville, parce que son effort était un peu trop important. Donc c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'embarquer les chevilles. Donc hop, il a été expulsé, deuxième carton jaune. Mais la bonne nouvelle, c'est que Francfort revient dans la première partie de tableau et risque de jouer les troubles faits. Peut-être pas en Ligue des Champions, on verra, parce qu'ils sont encore extrêmement dans le si, mais en tout cas en championnat, ils sont repositionnés. Et comme Leverkusen est aujourd'hui en fond de cale, ben il est fort possible qu'il y ait une place à aller chercher à nouveau en Ligue des Champions pour l'année prochaine.
Alors en Angleterre, Polo, Julien, le leader n'a pas connu ce problème. Derby du Nord de Londres remporté par Arsenal. Et là, on se dit que c'était vraiment un bon test aujourd'hui et que ça commence à devenir vraiment sérieux pour les Gunners.
Ouais, c'est vrai que c'était ça. C'était beaucoup de gens disaient c'est très bien pour l'instant ce qu'on a vu malgré la défaite à United, mais il faut juger contre un vrai adversaire, et c'était le cas aujourd'hui avec une équipe de Tottenham qui a été exactement ce qu'on attendait d'elle, finalement très solide défensivement, en tout cas en première période jusqu'au début de la seconde période et l'expulsion après d'Emerson, et très tranchante en contre-attaque, ce qui était encore une fois le style de jeu et le plan de jeu annoncé. Mais c'est vrai que du côté d'Arsenal, on a montré beaucoup de caractère, on a montré beaucoup de talent aussi. On a vu un très grand William Saliba encore une fois contre Harry Kane, et puis on a vu une très belle équipe d'Arsenal qui vraiment avec le ballon est très intéressante, et sans ballon est de plus en plus impressionnante dans sa façon à aller presser, à contre-presser, même si elle laisse des espaces et elle prend des risques parce que c'est la façon dont elle attaque, avec des latéraux qui entrent beaucoup à l'intérieur. Mais c'était quand même très très intéressant comme victoire. Après, bien sûr, le match tourne sur le carton rouge d'Emerson Royal, que Conte trouve sévère. Qu'en Angleterre, on trouve finalement pas si sévère que ça, où il n'y a pas trop de débats, ou pas trop polémique non plus. C'est vrai qu'il s'essuie un peu les crampons sur la cheville ou le mollet de Martinelli. À chacun de juger, mais je pense qu'il n'y a rien de scandaleux dans le carton rouge, mais c'est vrai que ça change. Il reste une demi-heure à jouer, ça change beaucoup de matchs. La seule chose qui me dérange le plus, c'est qu'à 20 minutes de la fin, Conte fait sortir Son, Richarlison, et clairement abandonne toute ambition de revenir dans la rencontre. Alors bien sûr, il s'était mené 3-1, mais je sais pas, moi, tu peux marquer un but, tu reviens à 3-2, tu mets des longs ballons sur la fin, tu sais pas ce qui peut se passer. Il a clairement abandonné. Ouais. Voilà, à 20 minutes de la fin, il a dit ça y est, c'est fini. Maintenant, on n'en prend pas un quatrième et c'est tout, quoi.
Les gars, il nous reste 2 minutes.
J'ai pas trouvé Hugo transcendant.
Qui?
Hugo. Sur le deuxième but, juste après la pause, c'est lui et Romero. Mmh. Quoi.
Mmh. Ouais.
Ouais, on espère qu'il sera mieux le mois prochain, Lio. Voilà.
Bah, il revenait là, il revenait de blessure.
Voilà, il était blessé, ouais. Il n'a pas joué avec les Bleus.
Mais j'ai pas trouvé, même le dernier but qu'il a pris, je l'ai vu meilleur que ça déjà.
Et ça fait 4 points d'avance pour Arsenal en attendant City qui jouera demain. Les gars, il nous reste 2 minutes. Si vous avez chacun une petite info en plus, là, en 15 secondes à donner sur votre journée, que vous, bien sûr, aurez tout le loisir de détailler lundi soir dans Génération After entre 20h et 22h. Fred.
Ah bah, c'est la nouvelle défaite de Séville à domicile. Bon, c'est pas contre n'importe qui, c'est contre l'Atlético. Séville qui est plutôt agréable à regarder en attaque, mais défensivement, c'est une catastrophe absolue. Donc ça fait 9 buts encaissés à domicile en 3 matchs, toutes compétitions confondues. On ne voit pas, et 0 but marqué, on voit pas comment Lopetegui peut tenir longtemps, parce que là, ça ne m'a plus, ça ne va plus du tout. Et Séville est ce soir 16e. Et puis, il y a encore pas mal de gens qui vont jouer demain et lundi.
Il sera peut-être plus là d'ici lundi soir, 20h. Julien, en Angleterre.
Le match fou entre Liverpool et Brighton, 3-3 à la fin, triplé pour Leandro Trossard, l'attaquant de Brighton. Seulement le 3e joueur dans l'histoire de la Premier League à inscrire un triplé à Anfield après Arshavin et Endlovu. Et pour Liverpool, ils sont à 11 points du leader d'Arsenal. Et c'est vrai que c'est quand même de plus en plus compliqué.
Johan, tu avais un gros match en Italie. Hein.
Alors, c'est le match de deux Zerbi. Ah non, ça, c'est autre chose. Non, c'est bien sûr le choc, hein, Inter-Roma. Très sincèrement, l'Inter, ça va pas. Ça marque pas beaucoup de buts. Ça en prend beaucoup. Il y a un discours d'après-match d'Inzaghi et même de Federico Di Marco que j'ai du mal à comprendre. Où ils ont vu le meilleur match de la saison de l'Inter, où ils pensent qu'ils étaient supérieurs à la Roma, où ils estiment qu'ils ont pris 2 buts sur 2 occasions de la Roma alors qu'ils n'en ont pas eu plus. Bref, il y a pas mal de choses qui ne vont pas et qu'on détaillera lundi dans l'émission.
Polo, pour conclure une autre chose.
Rapidement, il y a eu une superbe rencontre entre Cologne et Dortmund. L'Union a certes perdu, mais est toujours premier au classement. Et pourtant, virtuellement, le Borussia Dortmund menait 1-0 à Cologne et est donc en train de prendre la tête du classement. Le retour d'Anthony Modeste, évidemment, dans son ancien club, sifflé par le public, hué par le public, et qui a eu le droit à un traitement particulier de certains de ses anciens coéquipiers. Modeste a pas tenu la longueur. Tout comme le Borussia Dortmund qui en début de deuxième période s'est écroulé complètement. Défaite 3-2, 21 occasions pour Cologne, 22 pour le Borussia Dortmund. Ça allait d'un but à l'autre pendant 90 minutes. Voilà, mais le Borussia Dortmund a encore perdu une occasion.
Merci Polo, Julien, Johan.
J'ai une seconde.
Deux secondes.
Dans la rubrique qui sont ces gens, Rodrigo De Paul de l'Atletico qui dit à Simeone, mon père est malade, laisse-moi aller à son chevet. Il dit oui et on le retrouve en boîte à Miami.
Oui. On a vu, ouais, effectivement. Merci les gars. On vous retrouve lundi.
C'est pour noyer son chagrin.
Oui,
ça va être ça. Ouais. Ouais.
Lundi 20h, 2h pour revenir sur votre week-end et tous les matchs de demain aussi. Salut les gars.
Salut à tous.
Salut. 20h comme tous les lundis sur Génération After. Kevin Diaz, Lionel Charbonnier, merci les gars.
Merci.
Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain.
Salut à tous.
On revient demain à 20h pour le gros match du week-end. Ce Lens Lyon de demain, 20h45. Merci Kylian en régie. Toto, merci surtout à vous d'avoir été là comme tous les soirs. Bonne nuit l'équipe. Ciao.
RMC, l'After Foot.